En cherchant un chewing-gum dans la poche extérieure du sac, mes doigts remettent machinalement à leur place les cartes de visite. Je ne trouve plus que les miennes. Et zut, je lui ai donné celle du banquier qui m'a dragué hier soir dans le bus. Une haleine de coca light et une voix de gorge qui avait précisé, comme si l'argument nous destinait l'un à l'autre, « Elle est imprimée en relief. » Tant pis. Ou tant mieux, plutôt. Si j'ai envie de renouveler mes remerciements à Monsieur Macaron, au retour, ce sera à moi de faire le premier pas. Au retour. Tout ce que ces deux mots contiennent de promesses et d'appréhensions, de rêves et d'inconnus. J'ai accepté le fauteuil roulant pour ne pas retarder davantage l'embarquement, mais j'ai remis son harnais à Jules, seul moyen d'éliminer son stress après l'agression qu'il a subie. Rien n'est plus traumatisant pour un chien guide que d'être séparé par la force de la personne qui l'assiste. Il mène l'attelage comme un traîneau, en se retournant constamment, je le sens, perturbé par ce gabarit inhabituel qu'il doit calculer pour le franchissement des portes et des obstacles. Dans mon dos, le pousseur d'invalide corrige les oscillations du fauteuil, ce qui contribue encore à déstabiliser mon chien. Ça fait plus de 7 ans qu'il est tout seul à mon service. Il me connaît par cœur, il m'a fait prendre l'avion 20 fois et il ne comprend pas la situation absurde qu'on lui impose aujourd'hui. Anomalie qui s'ajoute à ma tension émotionnelle qu'il s'efforce de réguler depuis 3 semaines. Depuis qu'on a fixé la date de mon opération. Depuis que l'espoir et l'angoisse ont remplacé la résignation positive qu'il a toujours sentie chez moi. Il s'efforce d'atténuer l'angoisse par ses caresses, mais il n'est pas formé pour répondre à l'espoir. On n'apprend pas au chien guide qu'un aveugle peut un jour cesser de l'être. Je le prépare comme je peux, mais le message ne passe pas. Dans l'avion, une hôtesse le complimente et lui indique mon siège. Indifférent ou flatteré quand il est en service, il dégage l'assise en virant les 2 sangles de la ceinture de sécurité, choc familier du fermoir métallique contre le montant du fauteuil. Je m'assieds, je lui retire son harnais et je relève mes jambes pour qu'il se glisse en dessous. Roulé en boule, il s'efforce de ne pas tenir plus de place qu'un bagage cabine, comme chaque Noël, quand il m'emmène faire de la luge à Valberg, chez papa. J'avale un cachet pour me détendre. 75% de réussite dans la greffe qui m'attend. La cornée humaine provoque moins de rejets, mais les donneurs sont de plus en plus rares. J'étais 312e sur la liste d'attribution des greffons quand la catastrophe s'est produite. La famille d'un prélevé a attaqué le chirurgien pour mutilation de cadavre. Elle a gagné en première instance et la jurisprudence a ruiné les espoirs de milliers d'aveugles. Depuis que, devant les tribunaux, l'absence de déclaration au registre national des refus ne vaut plus consentement, aucun chirurgien ne prend le risque de prélever les yeux, à moins que la famille du défunt n'exprime son accord dans les 48 heures. Au-delà, ils ne sont plus utilisables. Les perfectionnements de la cornée artificielle convenant désormais à mon type de cécité, d'après le professeur Piolle, je n'allais pas attendre d'être vieille. Quand j'ai opté pour l'implant AlphaCor, je connaissais très bien les risques de rejet. En premier lieu, celui de la sécu. Et ça n'a pas manqué. En tant qu'inscrite sur la liste d'attente des greffons humains avec acceptation préalable de ma prise en charge, on m'a refusé le remboursement d'une pose de kératoprothèse. Heureusement, en apprenant le rejet de mon dossier, RTL a décidé de financer l'opération. Toute la station s'est cotisée pour rendre la vue à l'une de ses plus jolies voix, comme s'en est réjoui le directeur de l'antenne pendant le pot surprise qu'ils m'ont offert à Pâques. J'étais stupéfaite par cet élan de solidarité. Moi qui ne sers qu'à donner l'heure, l'accroche des spectacles en partenariat et la longueur des bouchons sur le périphérique. Grâce à leur générosité, on va implanter après-demain dans ma cornée opaque un anneau en polymère spongieux. Colonisé par les cellules de l'œil, il me rendra la lumière, les couleurs et les formes en moins de 48 heures, si tout se passe bien. Avec une vision maximale au bout d'un à 2 mois. J'ai accepté les risques, les effets secondaires, l'incertitude sur le long terme. Je n'ai peur que d'une chose, en fait. Le monde que j'aurai devant les yeux sera-t-il aussi beau que celui que je me fabrique depuis mes 17 ans? La joie de vivre qui me sert d'anticorps n'est-elle pas une simple réaction à la nuit? La réalité sera-t-elle fidèle au rêve éveillé qui l'a reconstruite? Je sens l'appel froid de la truffe de Jules contre mon mollet gauche. Je lui donne un macaron en repensant à mon héros de chez La Durée. J'ai bien aimé la façon dont ce type nous a défendus. Moi qui déteste plus que tout la pitié et l'esclandre, j'ai pris un pied de géante en l'entendant moucher ce sale morveux d'Air France. Le côté chevalier blanc déguisé en petit vendeur anonyme, je ne me l'avouerai jamais, mais ça me fait complètement craquer. Je me demande à quoi il ressemble. C'est bien rare qu'une personne change aussi radicalement de physique dans ma tête en deux éclats de voix. À son stand, j'imaginais un petit beurre du 9-3 qui s'invente des racines exotiques. Mais quand il s'est mis à gueuler dans la salle d'enregistrement, j'ai visualisé un prince du désert, mûr et dense, un nomade faussement reconverti dans les logements sociaux, un baroudeur coincé à l'escale par les aléas de la vie. Un cadra qui n'a plus rien et qui se raccroche à la moindre occasion d'exister pour quelqu'un. Ça me touche. Il parle bien en plus. Même en perdant son sang-froid, il garde sa syntaxe. Il doit être sexy comme une pâte à tarte, mais bon, ce n'est pas le problème et je dois faire mes exercices. 5 fois 10 contractions de paupières tous les quarts d'heure, entrecoupées de rotations des yeux dans les deux sens pour travailler l'hydratation, la souplesse et la mobilité en vue de la greffe. Il paraît que ça réduit les risques de rejet. Dans l'immédiat, ça me fout le cerveau en jacuzzi et j'ai l'impression d'être expulsé de mon crâne par la montée des eaux. Problème de concentration en plus. Ça ne figure pas dans les effets secondaires du cachet que je viens de prendre, mais j'ai très envie de faire l'amour. Déjà la semaine dernière, quand Fred a vu la toile que j'avais peinte en abandonnant mes doigts aux images symboliques qui se pressaient en moi, j'ai eu droit à un sifflement gaillard. Pfiou, très sexe, dis donc. Très prometteur. Je sais ce que je peins dans ma tête, mais je n'ai aucune idée de ce que les gens perçoivent. Et c'est ma plus grande fragilité. Il suffit qu'on me dise que mes tableaux sont toniques pour me donner une pêche d'enfer. Et inversement. La poussée de libido liée à l'imminence de mon opération n'est peut-être que le fruit d'un avis artistique pas vraiment désintéressé. Que va-t-il rester de tout cela si la greffe réussit? Je n'ai pas voulu que Fred m'accompagne à Nice. Trop de gêne face à mon père, trop de tension entre eux, aucune envie de gérer ça. J'ai même refusé sa voiture pour aller à Orly. Je n'ai pas eu le courage d'assumer ses caresses dérivatives, ses baisers trop confiants, ses bourrades joviales de coach exaltant sa championne, son anxiété si mal cachée sous les vannes. J'ai le droit d'avoir peur et de ne pas feindre qu'on me rassure. Et puis, j'aime Fred, mais ce ne sont pas ses caresses que j'imagine tandis qu'on décolle. Le marchand de macarons n'en est pas directement responsable, il ne fait que valider un pressentiment. Depuis 3 semaines, j'ai la certitude qu'au retour, rien ne sera plus comme avant. Et ça m'excite bien plus que ça ne m'inquiète.